Notre invitée ce matin, Isabelle Duché, témoigne du formidable trésor d'humanité qui se dévoile dans l'accompagnement des mourants.
Personne ne doit mourir seul, affirme avec force l'invité de Radio Présence ce matin. Nous sommes en ligne avec Jean-Frédéric Poisson. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du parti politique VIA, parti chrétien démocrate. Votre livre « Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie » présente l'histoire des soins palliatifs. Vous êtes de passage dans notre région pour deux conférences, l'une à Lourdes le 5 février et l'autre à Pau le 6. Jean-Frédéric Poisson, pourquoi avez-vous souhaité retracer l'histoire des soins palliatifs ?
Parce que le débat sur la fin de vie en France est tronqué. Quand on parle de la fin de vie et que nous sommes placés, chacun d'entre nous, face à la perspective d'une fin difficile, en réalité, on ne nous présente que deux solutions. Soit une fin de vie douloureuse, isolée, souffrante, insupportable, soit la perspective d'en finir plus rapidement, en choisissant le moment de sa fin et ses modalités. C'est un débat tronqué, c'est-à-dire en fait, c'est la souffrance ou la violence. Il y a une troisième voie qui n'est pas connue, c'est celle des soins palliatifs. Et pour avoir été moi-même souvent très, très ému, très bouleversé par le témoignage des accompagnants en soins palliatifs, je me suis dit que là où j'étais, à la fois comme philosophe et comme responsable politique, comme citoyen tout simplement, je me devais de donner de la place et d'être un peu le porte-voix de ces personnes qui accompagne jusqu'au dernier moment, dans une très grande dignité, ceux d'entre nous qui sont en train de partir.
Mmh. Le Premier ministre François Bayrou a annoncé le 21 janvier dernier que le projet de loi sur la fin de vie serait scindé en deux textes. Le premier sur les soins palliatifs, le second sur l'aide active à mourir. Qu'est-ce que cette insistance, pour vous qui êtes philosophe, qu'est-ce que cette insistance à légaliser l'euthanasie révèle de notre société ?
D'abord, la très grande tendance à faire en sorte que je dois vouloir faire ce que je peux, quoi que ce soit. Si je veux changer de sexe, je dois pouvoir le faire. Si je veux travailler chez moi, je dois pouvoir le faire.
Donc une volonté de toute puissance.
Oui, c'est ça. C'est l'individualisme poussé jusqu'à son point le plus haut, premièrement. Deuxièmement, il y a un mépris de la dignité humaine dans notre société, les atteintes à la vie, l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Le fait que, à l'autre bout de la chaîne, si j'ose dire, on considère de plus en plus les salariés comme des variables d'ajustement, des pions et de la matière mobile simplement, et pas du tout. Enfin, tous les endroits de la vie sociale, on se rend compte que l'être humain est méprisé. Je ne parle pas de la pédocriminalité, je ne parle pas de tout ça. Alors, c'est encore très contesté, heureusement, mais tout ça se propage. Donc, dans un contexte où la dignité humaine, la vie humaine ne valent pas grand-chose. Après tout, l'euthanasie, pourquoi pas, si ça peut faciliter les choses. Je mets des guillemets et avec beaucoup d'ironie, bien sûr, dans cette question. Et puis, je crois qu'il y a une lutte spirituelle, enfin, ça, je parle comme chrétien, à mon tour, une lutte spirituelle entre le bien et le mal, il faut se le dire, et par tous les moyens aussi, cette espèce de volonté systématique de l'homme de dominer la vie, de l'homme de dominer son prochain, ou de l'homme de dominer l'humanité plutôt que Dieu, s'incarne aussi dans des décisions politiques de ce genre.
Est-ce que vous pensez, Jean-François Poisson, qu'on a aussi une incompréhension de la mort ?
Ah, ça, probablement. Ouais. C'est la grande absente, d'ailleurs, de l'éducation, la mort. Moi, je raconte ça dans le livre, d'ailleurs, rapidement, mais quand j'étais collégien ou lycéen, enfin, nous étudions la littérature classique, et la mort est à toutes les pages, d'une certaine manière. Oui. Alors, elle est présentée de manière plus ou moins brutale, plus ou moins violente, plus ou moins drôle, parfois même. En tout cas, on y était habitué. Et à cette réalité-là, je me souviens que, alors que j'étais maire de Rambouillet, j'ai eu une cérémonie du 11 novembre avec des cadets des pompiers qui avaient 17 ou 18 ans. C'était la première fois pour quelques-uns d'entre eux qui mettaient les pieds dans un cimetière. Mmh. Donc vous comprenez, tout ça fait que la mort n'est plus familière, on ne veut pas la regarder. Alors on ne peut pas la regarder en face, comme des philosophes, mais en tout cas, on souhaite la mettre le plus loin possible de nous. Et on voudrait bien la maîtriser, parce que c'est quand même une drôle de chose, cette affaire. Mmh. Et on se donne l'illusion de pouvoir maîtriser la mort en choisissant le moment. En fait, on se ment, c'est un auto-mensonge, d'une certaine manière. Il vaut mieux laisser se faire les choses, laisser la vie partir quand elle doit partir, mais tout faire pour que ces derniers instants de la vie, qui sont extrêmement précieux, soient aussi dignes que possible. Soulagé sur le plan de la douleur physique, évidemment, mais on sait faire ça maintenant. et comment dire, accompagner sur le plan psychologique ou spirituel.
Oui, bien sûr. Alors, avant qu'on rentre dans les quelques-uns des 9 principes qui régissent les soins palliatifs que vous citez dans votre ouvrage, je voudrais reprendre ce résumé glaçant que vous faites de la marche du monde actuel. Vous dites, premièrement, on anesthésie les peuples. Deuxièmement, on leur fait peur. Troisièmement, on constate qu'ils n'aiment plus la vie. Et quatrièmement, on les aide à cela. J'aimerais bien, Jean-Frédéric Poisson, que vous nous donniez quelques exemples précis pour illustrer ces 4 étapes.
Ah, le confinement,
oui.
Et les crises sanitaires du Covid, on prenait ce schéma. Et on définit. Alors, Dieu merci, ça n'est pas allé jusqu'à la légalisation ou la possibilité de tuer son prochain. Mais nous avons été enfermés, souvent avec notre autorisation d'ailleurs. Enfin, ça pourrait faire l'objet de je ne sais pas combien d'autres émissions. Mais en réalité, nous avons été appris à faire en sorte que finalement, ce qu'on avait comme bien peut-être le plus précieux, c'est-à-dire la liberté, peut-être mise entre parenthèses, à partir du moment où effectivement, on nous raconte des cracks, ce qui est démontré maintenant. On nous a appris à, comment dire, à faire avec, hein, et à accepter tout cela, et puis à abandonner notre bien le plus précieux en restant chez nous sans protestation. Mmh. Vous prenez.
Et en ce qui concerne la fin de vie, un exemple voilà, qui montre cette.
La mécanique elle-même de l'égalisation de l'euthanasie,
oui.
L'anesthésie des peuples en espèce, ça consiste à essayer de montrer que finalement la vie humaine a à la fois assez peu d'importance quand elle est affectée par une maladie longue ou un état gravataire, que finalement si ça n'a pas d'importance, ben, ma foi, on peut parfaitement en disposer comme on veut. Et puis c'est tellement difficile, c'est tellement insupportable et tellement comment dire. Difficile à vivre, tout simplement, ces moments-là que finalement, ben, on doit bien pouvoir en disposer. Ne pas aimer la vie, ça veut dire aussi ne pas comprendre que on n'est pas nécessairement seul face à soi-même et face à sa propre douleur. On peut. L'accompagnement, ça existe. Le très beau nom de votre radio, d'ailleurs, en témoigne. La présence, c'est ça qui est le plus émouvant. Les soignants en soins palliatifs disent, c'est le contraire, en fait. De l'anesthésie, de la contrainte, la présence des accompagnants en soins palliatifs, c'est le contraire de l'anesthésie, de dire c'est la prise de conscience de la valeur de la vie même quand elle se termine, de la valeur de la relation humaine, de la valeur de la relation sociale et de la valeur de l'homme tout court.
Jusqu'au
dernier moment.
Vous citez dans votre ouvrage 9 principes qui régissent les soins palliatifs. Alors évidemment, nous n'aurons pas le temps en 14 minutes d'interview de les citer tous, mais je m'arrête d'abord sur ce deuxième principe, qu'il repose sur l'interdiction de tuer son prochain. Vous vous interrogez ici sur la dignité humaine, arguant qu'aucune personne ne peut la perdre. Sur quoi repose précisément cette dignité humaine, Jean-Frédéric Poisson ?
Alors, les croyants vous diront que c'est sur le fait que nous sommes chacun d'entre nous une créature de Dieu. Et que ça ne s'en va jamais. C'est-à-dire, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, même les pires des choses. Une créature de Dieu reste une créature de Dieu. C'est ça qui fonde chacun d'entre nous dans sa dignité. Ça, c'est inadmissible. Ça ne s'en va pas, comme on dit plus de trivialement. Si on n'est pas croyant, on peut parfaitement considérer que cette qualité particulière qu'a l'homme, qui est sa liberté, la capacité d'être la cause responsable de ses actes, est quelque chose qui le distingue du reste de l'univers et qui lui donne une valeur particulière, et c'est cette valeur-là que nous appelons dignité. Donc, ça n'est pas une notion religieuse, elle peut avoir un enracinement dans la foi, bien sûr, mais c'est une notion, la valeur éminente de l'être humain est une notion à laquelle on accède par la simple raison naturelle, et ça justifie le fait que, à cause de cette valeur, chaque être humain soit protégé par le droit, en tout cas dans les sociétés dites évoluées, alors elles le sont peut-être vraiment, c'est une question, mais en tout cas occidentales, à partir du moment où on constate la présence d'une capacité à être la cause de ses actes, d'une capacité à être libre, le droit met dessus l'étiquette personne. Et quand c'est une personne, ben on n'a pas le droit de vous couper en rondelles, on n'a pas le droit de vous vendre, on n'a pas le droit de vous déchiqueter en morceaux, on n'a pas le droit de vous séquestrer, on n'a pas le droit de faire tout ça. Ni de vous mettre à la cheminée pour faire du feu, etc. Vous êtes protégé. Cette protection ne s'arrête Elle commence au tout début de la vie, elle ne s'arrête qu'avec la mort. Et d'ailleurs, elle va même au-delà de la mort, puisque la civilisation consiste aussi à respecter les morts et leur
Oui, c'est vrai.
sépulture. On respecte même jusqu'aux traces de cette liberté dans les cadavres. Au nom de ça, on a considéré, très tôt d'ailleurs, puisque c'est dans le décalogue, hein, qu'il n'y avait pas de société possible, pas de respect possible de l'être humain s'il n'était pas interdit de supprimer la vie de son prochain. C'est un interdit fondateur de la société. Tout le monde comprend que si cet interdit tombe, pour quelque raison que ce soit, alors c'est tout l'édifice de la vie sociale qui tombe, c'est toute la fraternité qui est fragilisée, c'est toute la solidarité qui perd son sens. À partir du moment où j'ai en face de moi quelqu'un dont je peux disposer de la vie dans certaines circonstances, quelles qu'elles soient, je ne vois pas pourquoi je serais solidaire avec lui, je ne vois pas pourquoi ce serait mon frère. Vous ne tuez pas votre frère. Vous comprenez? Donc, y a là quelque chose qui est une ligne rouge, rouge vif, clignotant. Si vous la franchissez, vous passez dans un autre monde. C'est le principal danger symbolique de la légalisation de l'euthanasie.
Oui, c'est ça. Le cinquième principe des soins palliatifs est fondé sur le fait que la douleur ne sert à rien ou presque. C'est sur ce point de la douleur récalcitrante et insupportable que les défenseurs de l'euthanasie justifient leur combat. Quelle différence faites-vous entre la douleur et la souffrance?
Alors, il y a une première différence qui est que toutes les douleurs sont souffrantes, mais toutes les souffrances ne sont pas des douleurs physiques, s'entend. La douleur, la plupart du temps, elle est physique, elle est symboliquement employée sur le plan mental ou moral. Mais bon, la douleur, comme je viens de le dire, c'est un indicateur physiologique, c'est-à-dire que ça sert à l'organisme à vous alerter sur le fait qu'il y a quelque chose qui va de travers. C'est le signe d'un dysfonctionnement physiologique, la douleur. Alors, soit interne, soit provoquée par l'extérieur. Enfin, tout le monde sait ce que c'est que d'avoir mal quelque part. La souffrance a quelque chose de plus métaphysique. C'est-à-dire, la souffrance, ce n'est pas forcément une douleur physique, mais c'est le sentiment, la prise de conscience d'une fragilité, de quelque chose qui est vacillant dans notre propre être, et vacillant au point de provoquer des inquiétudes profondes, des angoisses même parfois terribles. Évidemment que ce sentiment de fragilité atteint une forme de paroxysme aux instants qui précèdent le fait qu'on va quitter ce monde. Et évidemment que la douleur ne sert à rien, c'était un peu provoquant comme titre de chapitre, ça
Oui.
voulait dire simplement que
Si ce n'est à alerter.
le fait d'avoir mal, bah c'est pas bien. Pendant très longtemps, on a cru pouvoir penser qu'il suffisait d'avoir mal pour être sauvé, et que c'est le fait que le Christ ait mal sur la croix qui sauve l'humanité. Non,
Oui, c'est
pas du
son
tout, c'est
amour.
l'offrande. Et l'amour, ça n'est pas la douleur. La douleur ne sert à rien sinon à montrer qu'on a mal. On ne peut pas monter une morale sur le fait d'avoir mal, et pendant très longtemps, le corps médical a négligé cet aspect en disant, ben, la douleur, finalement, il paraît que ça sauve les gens. Donc, plus ils ont mal, c'est pas si grave que ça. Par ailleurs, on savait pas très bien traiter ça non plus dans la médecine. Vous savez, il y a que quelques années que quand vous êtes hospitalisé, on vient vous voir à un moment pour vous demander combien vous avez mal,
Ah oui, sur une
combien sur une
échelle.
échelle de 1 à 10. Mais c'est très récent.
Oui.
Ça veut dire que la prise de conscience totale, la prise en charge totale de la douleur, même à l'hôpital, est quelque chose qui n'allait pas de soi et qui n'allait pas de soi. Comment dire De manière habituelle.
Oui.
Donc, le fait qu'on la soigne maintenant, qu'on soit capable de soigner les douleurs récalcitrantes à quasiment 100%, il n'y a plus rien maintenant qui résiste aux antalgiques et aux calmants, est une excellente nouvelle pour nous tous.
Oui, bien sûr, et c'est justement un des travaux des soins palliatifs
Oui.
de traiter cette douleur et de prendre en charge aussi la souffrance, de l'accompagner, d'accompagner les patients. Merci
Absolument.
beaucoup, Jean-Frédéric Poisson. Je rappelle les deux conférences que vous donnez cette semaine dans notre région, le 5 février à Lourdes, salle Saint-Pierre à 20h30, et le 6 février au lycée de l'Immaculée Conception de Pau à 20h30 aussi. Merci et bonne journée.
Merci beaucoup.